It's time and relativity, my dear boy. Time and relativity.
Bonjour et bienvenue dans Spock on a Blue Box, un podcast qui reviendra sur deux séries télévisées, Star Trek et Doctor Who. Pour ce faire, deux animateurs qui représenteront chacun une série. On a d'un côté Thomas pour
Star Trek. Mm-hmm. Et vous, je crois que vous allez faire
Doctor Who, en effet, et Sen Parod pour Doctor Who. Donc, pourquoi parler, en fait, de ces deux séries, mine de rien?
En fait, ces deux séries, elles ont plusieurs points communs. Tout d'abord, elles se passent dans l'espace. Elles abordent l'exploration, l'étrange, des mondes nouveaux. Et parfois se permettent, enfin, surtout pour la tienne, de se plier aux règles du temps, de s'amuser.
C'est vache.
Moi, je commence dès le départ. Ah, je me permets une claque tout de suite.
Je vois. J'aurais peut-être ajouté aussi que c'est un moment dans ces deux séries assez anciennes, mine de rien, qui ont connu plusieurs ramifications, mais qui ont tous les deux commencé dans les années 60, si je ne m'abuse.
C'est clair. Vous, je crois que ça a commencé en plus très très bien, si je dis pas de conneries.
Oui, bah chez toi aussi, ça commence plutôt bien. Voilà.
C'est pas faux.
Et aussi, c'est des séries qui, je pense, aussi un point commun en particulier, c'est une certaine façon de montrer peut-être tout ce qui est alien et tout ce qui est différent, peut-être sous un visage un peu différent de ce qu'on a l'habitude. On n'est pas sur des extraterrestres un peu forcément maléfiques, mais il y en a aussi des bienveillants, ce qui n'était pas forcément la norme
à
l'époque.
C'est pas tout le temps comme ça que ça se passe, effectivement. Star Trek se rapproche, aborde souvent ça sous le côté découverte des peuples. Alors, elle puise aussi parfois son côté un peu peuple, surtout pour la première série, les séries originales.
Je vais pas cacher que c'est un peu pareil pour Doctor Who.
Voilà.
On a littéralement un écrivain de pulp qui a écrit la deuxième histoire de Doctor Who, donc voilà. Difficile de renier ça. Mais oui, je pense que par exemple, c'est pour ça aussi qu'on a utilisé comme nom Spock. Et Spock et le Docteur sont pour moi des figures qui sont nées à peu près en même temps et qui sont assez représentatives de cet état d'esprit, en fait.
C'est ça. Je crois que c'est toi, Sen, qui avait abordé le sujet à un moment donné en disant c'est un peu l'alien humain ou l'alien, en fait, avec une certaine forme d'humanité.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est un peu ça qui est en commun aux deux séries.
C'est ça, et alors ça fait longtemps, je crois, qu'on a eu cette discussion, parce que à l'époque, on habitait tous les deux dans une autre ville. Depuis, on a tous les deux déménagé au même endroit.
Oui, en fait, on a déménagé, mais on habite la même ville.
C'est ça, mais on a déménagé au même endroit sans le vouloir, c'est très rigolo. Mais bon.
Question raccord de temps, on est pas mal.
C'est ça. Et donc, du coup, au fil du temps est née un peu cette idée de lancer un podcast. Qui parlerait et de Doctor Who et de Star Trek, en essayant pourquoi pas de les comparer.
C'est ça.
Alors après,
on joue pas forcément au jeu des différences, on essaye de justement prendre chacune ce qu'elles ont de particulier et comment est-ce qu'elles l'abordent. Donc, on peut pas... il y a plusieurs contraintes. On peut pas forcément comparer les séries classiques et les séries nouvelles de manière en frontale, donc on s'est organisé autour de thèmes. Et premier thème, le premier nom d'épisode qu'on a eu, c'est l'épisode où c'est un début.
C'est ça, on va devoir regarder un moment où c'est le début de quelque chose. Donc dans les deux séries, le début de quelque chose dans l'univers de Star Trek et le début de quelque chose dans l'univers de Doctor Who. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, je vais te laisser la parole. Et est-ce que tu peux me présenter ce qu'on va voir dans Star Trek?
Alors, dans Star Trek, on va voir un épisode, on va voir un premier épisode d'une première saison. On va voir.
Ah, c'est vraiment un début-début, du coup.
C'est vraiment début-début. Alors, j'ai choisi Encounter at Far Farpoint, ce qu'on appelle en français Rencontre à Farpoint.
Ouais.
C'est le premier épisode de Star Trek La Nouvelle Génération, c'est la saison 1, on est le 28 septembre 1987, et c'est le retour de Star Trek à la télévision, après la série des années 60, après la série animée, et après quelques films avec le casting original de la série, de la toute première série Star Trek, donc avec Shatner, avec DeForest Kelly, etc. Et on part avec donc toute une galerie de nouveaux personnages à présenter, avec le capitaine Picard, toujours avec l'Enterprise, et cet épisode est un petit peu particulier, déjà parce qu'il dure une heure. Et on y reviendra un peu après dans le petit débriefing qu'on va faire, mais c'est ce qui rend un peu cet épisode caractéristique, en fait.
D'accord.
Cette série. Y a, donc, comme je disais, tout un casting à présenter, tout plein de choses, comment dire, à mettre en scène, et surtout, il faut marquer le coup, parce que Star Trek n'a pas été sur le petit écran pendant très longtemps.
17 ans, il me semble, ou un truc comme ça.
Grosso modo, ouais. C'est-à-dire que, hormis les différents... Je crois qu'à ce moment-là, les auditeurs me pendront par les pieds si je dis ça, mais je crois qu'à peu près à ce moment-là, on en est à 4 films Star Trek sur ce grand écran, si je dis pas de bêtises. Ce qui va caractériser cet épisode, c'est que donc c'est sa longueur, c'est aussi une histoire de production et d'écriture aussi qui est un petit peu compliquée. J'y reviendrai un peu plus loin. En fait, dans cet épisode, ce qu'il faut comprendre, c'est que le capitaine Picard prend la tête donc de l'Enterprise D, qui est la toute nouvelle itération de l'Enterprise, qui est le vaisseau amiral donc de la flotte de la Fédération, et on part récupérer plusieurs personnages qui vont intégrer l'équipe de commandement du vaisseau. Et sur le chemin qui mène à Farpoint, il y a quelques péripéties que vont rencontrer nos aventuriers pour pimenter un petit peu un voyage d'agrément qui est loin d'être évident.
Ouais. Bah, en même temps, sinon il n'y a pas d'épisode.
Il n'y a pas d'épisode. J'imagine. Il n'y a pas d'épisode. Mais c'est pour ça. Pour cet épisode, faut s'attendre à beaucoup de présentations et à une intrigue un peu particulière, en fait. Mais on en reviendra pour le débrief.
D'accord. Ça m'a l'air très bien tout ça. Écoute,
ça s'annonce chargé, hein, parce qu'une heure, faut le faire. Hein.
Voilà. Alors, je tiens aussi à préciser quelque chose, comme c'est la première fois qu'on lance. En fait, quand on tourne en fait cette première partie, on n'a pas encore vu les épisodes forcément. C'est-à-dire que moi, j'ai vu l'épisode de Doctor Who que je compte présenter. Thomas a vu l'épisode de Star Trek qu'il compte présenter, en tout cas, j'espère.
Deux fois.
Ouais, bon. Et en fait, on fait une présentation générale qui est en même temps une présentation donc pour vous les auditeurs, mais en même temps pour l'autre personne. Et ensuite, on va le regarder ensemble et après, on va faire un débriefing sur ce qu'on en a pensé et les comparaisons qu'on peut en tirer. Voilà. C'est grosso merdo le principe. Et je me suis dit que c'était peut-être bien de le préciser. Est-ce que tu as terminé tout à fait sur...
Moi, j'ai terminé. Alors toi, tu as sélectionné quoi ?
Alors moi, je me suis dit... Doctor Who, c'est une série qui a plusieurs débuts, puisqu'il y a une série classique, une série moderne et quelques spin-offs. Mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop simple, peut-être, de choisir directement un début-début.
Oh là, attendez. Comment ça, trop simple?
Ouais, bah voilà, c'est Doctor Who, tu vois, ils ont des gens une certaine réputation, de choses un peu compliquées, un peu fantasques et tout ça, une excentricité à faire vivre, donc j'essaye moi-même d'être excentrique. Donc voilà, donc je me suis dit, et si jamais on partait plutôt sur une saison 12, plutôt qu'une saison 1.
Oh là 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 là, saison 12 tout de suite, ça y est.
Voilà, c'est ça.
On commence à me perdre.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cet épisode? Tout simplement parce que c'est un épisode avec beaucoup de débuts, et notamment le début d'un nouveau docteur. Donc le docteur, c'est un personnage qui change régulièrement d'apparence et de personnalité. Mmh. Et là, on va découvrir donc le quatrième docteur. Donc joué par un tout nouveau personnage, donc Tom Baker, qui est plutôt un parfait inconnu au moment où il commence à prendre le rôle. Ça va lui faire gagner un assez gros melon sur la fin, mais pour l'instant, il est plutôt agréable envers ses collègues, et il aime beaucoup boire, donc il va beaucoup boire avec le brigadier par exemple. On est sur un épisode qui donc commence la saison 12. On est sur en fait l'histoire 75 de Doctor Who. Je vais expliquer, je le sens un peu.
Oui, parce que faut bien être clair. Hein. Oui. Si moi je peux arriver à argumenter sur. Enfin, comment dire, à dire que les fans et par extension, on va dire, les séries Star Trek arrivent à s'organiser à peu près globalement assez simplement. On a la série originale, ce qu'on appelle la The Original Series en anglais, TOS, Next Generation qu'on appelle TNG. Deep Space Nine qu'on appelle DS9, Voyager c'est VOY, plus les nouvelles séries qui ont commencé à être produites par la CBS et puis diffusées sur Netflix, etc. Toi, SN, c'est un petit peu plus compliqué. Hein,
c'est un peu plus compliqué et en même temps pas forcément puisqu'il n'y a que deux trucs en fait. Il y a Doctor Who classique et Doctor Who moderne, aussi appelé parfois New Doctor Who. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a que deux? C'est tout simple, c'est-à-dire qu'en fait, Doctor Who classique s'est pratiquement pas arrêté, en fait. Doctor Who classique, c'est 1963 à 1989. Ça fait pas mal. Donc ça fait 26 saisons. Et là, on est dans ce qu'on appelle en France Doctor Who moderne, donc qui a commencé en 2005 et qui est toujours en cours aujourd'hui.
Avec Jodie Whittaker à la...
Actuellement, en tant que docteur. En tant que... 13e docteur. Donc c'est assez simple, sauf qu'en fait, dans la série classique, on ne comptait pas les histoires en tant qu'épisodes. C'est-à-dire qu'une histoire était plusieurs épisodes. Par exemple, l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, Robot, a 4 épisodes.
Ah, les Anglais sont quand même bien casse-pieds, mine de rien.
C'est-à-dire qu'on n'était pas sur l'idée d'un show qu'on pouvait passer un peu comme on voulait, un peu comme les Américains. T'as voulu commencer à ce qu'on compare, on va commencer à comparer. On est plutôt sur l'idée, chaque samedi, il y a un épisode de Doctor Who et faut suivre, c'est sériel. Voilà, on est vraiment là-dessus. C'est pas comme Star Trek, la série originelle, où on avait à peu près une nouvelle situation à chaque épisode.
Oui.
Et très peu de choses qui se suivaient. Là, on est vraiment sur des choses qui se suivent. Et justement, donc, le docteur vient de changer de face.
On en reparlera de ce côté un peu de l'épisode découpé de suivi parce que
ça
a eu tendance quand même un peu à évoluer au fur et à mesure des saisons, surtout sur Deep Space Nine par exemple.
J'espère bien que ça change. C'est la preuve qu'un show vit le changement, mine de rien. Et justement, il y a beaucoup cette histoire là en fait est un peu l'endroit où ça va commencer à changer. C'est-à-dire que j'ai beaucoup hésité sur les endroits où mettre un début, puisque Doctor Who change fréquemment. C'est un peu le principe, on change de formule, on change d'acteur principal, on change de plein de choses.
Je veux dire qu'à chaque Docteur, en fait, c'est comme si on rebootait un peu la série, en fait. On la relance, quoi.
Ouais, alors enfin, il y a des Docteurs avec lesquels c'est plus marqué. C'était le cas avec le Docteur d'avant, en fait. Qui a passé pratiquement tout son temps sur Terre, en fait, à suivre les histoires. Si je devais les comparer à une autre série, on serait plus sur du chapeau melon aux bottes de cuir, ou éventuellement à la saga James Bond au cinéma. Voilà. Avec quand même des éléments où il y a des dinosaures sur Terre, où il y a des aéroglisseurs, où il y a des gens qui vivent sous l'eau, enfin, voilà. Et des dimensions parallèles, je ne t'oublie pas. voilà. Et donc du coup, il va falloir qu'on passe de ce côté-là à une nouvelle version, donc du show. Tout simplement parce qu'il y a la première histoire où il y a un nouveau script editor qui s'appelle Robert Holmes et qui va pas mal changer un peu le ton de Doctor Who au moment où il va arriver.
Donc en fait, excuse-moi de te couper, mais en fait, si on prend un peu les deux épisodes qu'on a choisis, on est quand même face à deux... Enfin, d'une part, on change un petit peu la manière d'écrire ou de revoir un peu les scripts sur Doctor Who, donc il faut faire ses preuves, faut aussi évoluer, continuer continuer dans la lancée de ce qu'a été la série, donc avec un nouveau docteur.
Ouais.
Tandis qu'avec Star Trek, de l'autre côté, bah, il faut faire revenir un show qui a été présent dans les années 60, mais il faut le relancer tout en le modernisant un peu. En fait, on a à peu près les mêmes enjeux, en fait, en termes
Je pense quand même qu'il y a une plus forte continuité dans Doctor Who, tout simplement parce qu'on va reprendre directement juste après la régénération. En fait, on va vraiment revoir le docteur changer de visage juste à l'écran, qu'on va se retrouver avec les mêmes acteurs. Donc, c'est-à-dire que les acteurs qui étaient avec le personnage précédent vont se retrouver avec celui-ci. Donc, et pas dans un autre vaisseau où on ne retrouve pas les anciens personnages. Donc je pense que là-dessus, il y a quelque chose qui va être différent. En tout cas, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Qu'on va pas retrouver les anciens personnages de Star Trek. Voilà.
Pas trop.
Ah, quand même. D'accord. Donc il y en a quand même un. Donc on se retrouve sur la même douille. Et il y a une espèce de tradition qui est mise en avant par l'ancienne équipe qui s'en va pour en fait dire oui, mais il y a une tradition dans Doctor Who, quand une équipe s'en va, en fait, elle fait le premier épisode du début de la nouvelle génération.
D'accord.
Ce qui veut dire qu'en fait, on est là avec Barry Letts et Terence Dix, en fait, qui sont des gens qui ont été extrêmement importants pour Doctor Who, qui vont en même temps être là pour faire pour écrire un peu l'histoire et pour la tourner. Donc c'est-à-dire que t'as le nouveau qui est script editor, donc qui va essayer de mettre des choses, mais il y a aussi l'ancienne équipe qui est encore là sur cet épisode-là. D'accord. Pas sur les autres. Donc c'est-à-dire que c'est le moment où peut-être les deux versions vont peut-être s'entrechoquer un petit peu. Et c'est peut-être intéressant de voir comment ça va s'entrechoquer. Voilà. Alors,
c'est juste une question, c'est une tradition qui est encore conservée à l'heure actuelle ou pas dans la série moderne?
Non, plus trop. Enfin, ils se mettent d'accord sur l'endroit où on laisse le docteur. Tu vois, par exemple, dans la série moderne, donc Russell T. Davis avait demandé à Stephen Moffat où est-ce qu'il voulait le récupérer. Donc lui, tout à fait en l'air avec le TARDIS qui est à moitié en train de péter, ça lui allait.
C'est bon, je peux récupérer les cils.
Voilà, ça a fait pareil entre Stephen Moffat et Chris Kimnall. Donc ils sont mis d'accord aussi sur le fait qu'on récupère le docteur d'ailleurs à peu près au même endroit, c'est-à-dire que il est dans le ciel et il tombe.
Ok.
Voilà. Je me suis dit que j'ai pas fait de résumé encore de mon épisode.
Parce que vous trouvez que le mien était mieux.
Voilà. Donc on est à UNIT, donc United Intelligence Task Force, désolé, qui est un peu, si tu veux, l'ancêtre de Torchwood. Sauf que là, c'est un peu plus officiel. Voilà. C'est donc une équipe qui est chargée sous la tutelle des Nations Unies. De s'occuper de tout ce qui est menace un peu surnaturelle et extraterrestre. Le troisième docteur, donc le docteur précédent, a été en fait leur conseiller scientifique.
D'accord.
Mais là, forcément, il vient de se régénérer. Il a un peu de mal, comme à chaque changement, en fait, il a un peu de mal à. Il est un peu dans le brouillard, le docteur. Et pourtant, y a des plans top secrets qui viennent d'être volés avec des gardes qui se sont fait tuer. Et apparemment, le coupable apparent serait peut-être un robot à moitié intelligent qui aurait été créé par un groupe un peu de scientifiques. Seulement, le problème, c'est que sa programmation, on va dire, basique est censée l'empêcher de pouvoir tuer. Donc, est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Et non. Est-ce que le docteur va pouvoir quand même, malgré son traumatisme de régénération, résoudre le mystère. Voilà, grosso merdo.
Ok.
Est-ce que tu veux qu'on commence à regarder du coup, ou est-ce qu'on rajoute quelque chose avant de partir?
Non, je pense qu'on peut commencer à mater le show et puis on va voir ça, on va étudier ça.
Très bien, partons donc vers l'espace et le temps, frontière de l'infini, vers lequel voyage notre vaisseau spatial.
Attention, Les réactions qui vont suivre ont été enregistrées par des professionnels. N'essayez pas de reproduire ça chez vous.
C'est des références à des histoires qu'ils ont fait en fait.
Space. The final frontier.
Merde, j'ai les chills.
Pas le téléphone, ça vaut cher. Il est directement dedans. Snoop, Snoop, Snoopy Dog.
Oh, c'est ça. Tête, c'est pas possible.
La mauvaise
foi. Non,
t'as... non, la mauvaise foi est achetée.
C'est juste.
Ah, ça sent le cliff de fin d'épisode. L'épisode où le voyage se passe mal. Ça, c'est pas du jeu, c'est pas faire. Ici le capitaine Picard, c'était là, je ne sais pas combien de coupures pub. J'en peux plus. Il faut que je trouve un coca. C'est de la musique qui réagit aux actions et tout, c'est... Vous auriez pu dire au moins sur quoi vous avez posé vos phasers, quoi, parce que là je sais même pas si vous l'avez tué ou si vous l'avez juste endormi. Et donc nous voici de retour après avoir donc regardé un peu nos épisodes donc ensemble, ce qui est vachement bien à faire, hein, mine de rien, on rigole pas mal.
Ouais.
Et
Je me rends compte que moi je suis vachement concentré dans ce que je regarde en fait.
Non mais c'est bien d'être concentré, moi j'aime bien balancer 2-3 pics sur les trucs que j'aime bien et sur les trucs que j'aime pas, donc en fait je balance des pics un peu tout le temps en fait. C'est comme ça.
Ouais.
Voilà. Et il y a un truc qui m'a frappé pendant qu'on regardait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit débrief sur les deux épisodes, essayer de voir comment les comparer, essayer de voir comment sur le thème du fait du c'est un début à chaque fois, comment est-ce qu'ils s'en sortent chacun.
Ouais.
Mais il y a quelque chose qui m'a frappé pendant qu'on le regardait ensemble, c'est qu'il y a plusieurs fois t'as laissé échapper un petit doute ou quelques petites exclamations. Sur le choix, je crois que tu as fait, il me semble.
Ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est une de tes réactions quand on était en train de regarder. Tu me fais à un moment donné, c'est peut-être pas le meilleur, premier épisode.
Je pense que si jamais tu connais pas Star Trek du tout, c'est très compliqué. Moi, j'ai quelques connaissances pas immense et pas extraordinaire, hein, c'est pas ouf, hein. Ouais. Mais merci de gréer dans ce sens. mais si tu veux, il y a directement ça a commencé. Tu as directement cité un terme d'histoire en fait, que c'était les guerres eugéniques et tout ça. Mais du coup, moi j'ai eu ça parce que tu me l'as dit, mais à aucun moment dans l'épisode c'était précisé en fait.
En fait, il y a plein de choses en fait dans cet épisode qui sont gênantes. Le premier, c'est effectivement que ça parle de choses ça parle d'événements dans la mythologie Star Trek qui sont à peu près vaguement connus, mm-hmm. qui font référence justement à l'histoire de l'univers tel qu'il s'est développé dans leur chronologie, dans leur timeline. Il y a ça. Q, John Delancey qui pop là-dedans aussi, qui est à l'origine de ça, qui confronte en fait l'équipage de l'Enterprise à ce qu'ils ont, à l'humanité, à ce qu'elle a pu faire de mal au cours des siècles précédents. Mm-hmm. Et il y a le voyage baptême de l'Enterprise, parce que ça, faut pas l'oublier, techniquement c'est le premier voyage baptême du vaisseau du vaisseau drapeau de la flotte. Mm-hmm. Il faut récupérer des futurs membres de commandement de la passerelle qui se trouve à Farpoint.
Mais ça, à la limite, c'est...
Non, mais jusqu'au bout, d'accord. Il y a soi-disant un mystère à Farpoint. Et ça, comme tu dis, enfin, comme j'imagine que tu vas le dire, c'est une intrigue qui peut paraître un peu secondaire, mais techniquement, c'est le titre de l'épisode.
Mmh.
Et quand tu m'as dit, effectivement, c'est pas le premier épisode pour débuter, je veux bien le reconnaître. Parce que il est long. Il y a une manière de structurer l'histoire qui a peut-être pas été très très bien pensée, et c'est ça qui peut rebuter en fait au début. Alors pourquoi moi j'avais choisi cet épisode là parce que c'est vraiment le premier épisode qui m'a fait accrocher en fait définitivement à Star Trek, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment embarqué définitivement dedans. Et c'est commun en fait dans le milieu quand on dit quand tu veux commencer par Star Trek, accroche-toi, le premier épisode il est dur, surtout si tu veux débarrer par Next Generation, parce que c'est vrai que les... Enfin, disons que pour débuter c'est quand même mieux de démarrer par Next Generation, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais plus recommander de partir en regardant le premier épisode de la saison 2 de Discovery, qui fait le taf comme il faut. Mais moi je voulais démarrer par l'ancienne série, par la série des années 80, par Picard, et je me suis accroché aussi en fait. Et c'est vrai que c'est pas le plus évident pour démarrer. Mais c'est celui qui m'a définitivement fait monter à bord de la série et qui m'a fait définitivement dire ouais, je suis tricky et je veux en savoir plus.
Je comprends. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que tu disais il y avait des membres d'équipage à Farpoint. Et moi, je trouvais ça par contre assez intéressant au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de te donner plein de personnages d'un coup, on te fait deux groupes de personnages, ce qui fait qu'en fait, t'as moins en fait un moment où t'es surchargé d'informations sur chacun. En fait, t'as deux groupes où t'as des informations. En fait,
c'est
plutôt pas mal. Et justement, je voulais rajouter un point positif dans ta petite litanie.
Dans le schlag.
Voilà, c'est ça. c'est pour ça. C'était pour rajouter un point positif dans le truc. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il y a il y a énormément de choses. Si jamais tu connais rien à Star Trek, waouh.
Tu te prends en pleine face. Je suis conscient que c'est ça. Alors après, je vais essayer d'expliquer aussi pourquoi pour moi c'est aussi comme un épisode intéressant. C'est que ça, pourquoi ça reste un bon début, c'est parce que d'une part effectivement tu découvres les différents membres, futurs membres en fait d'équipage de la passerelle de commandement de l'Enterprise. Donc c'est les futurs héros que tu vas suivre tout au long de cette saison et c'est énorme cette saison, faut pas l'oublier. Et ça fait découvrir aussi un nouveau personnage qui s'agit de Q. Alors même si Q dans l'histoire est intégré et présenté comme étant le trublion, l'élément déclencheur, le dieu du chaos, il s'avère que par la suite c'est un personnage qui va se révéler de plus en plus intéressant et qui va proposer des histoires, des challenges, des défis pour l'équipage de l'Enterprise qui seront vachement fondateur, si tu veux, sur la mythologie de la série. C'est lui qui va être à l'origine, par exemple, de la confrontation. On a le droit de spoiler ou pas
C'est compliqué.
Il va être à l'origine d'un événement assez fondateur dans l'histoire de Next Generation, avec une race très spéciale.
D'accord.
C'est lui qui va être un peu aussi l'aiguillon du Capitaine Picard, qui, tel qu'il est présenté, je me souvenais pas en fait qu'il était aussi, enfin dans l'interprétation que Patrick Stewart en fait, à quel point il peut être pète sec, casse-couille quoi. La première rencontre entre Riker et lui, c'est juste affreux quoi.
Ouais, il a pas l'air très sociable en effet, ouais.
Ouais.
Mais
il dit lui-même, hein, moi et les enfants, c'est pas mon truc quoi.
Ouais, mais justement, il prouve aussi qu'il lui fait confiance assez vite puisqu'il lui montre cette faiblesse directement en fait. Et, ouais. et en lui disant, bah voilà, si j'ai besoin de votre aide, c'est pour pallier à cette faiblesse. Donc il y a quand même pas mal là-dessus. Enfin, il y a quand même un bon début, moi, je pense, en tout cas au niveau de la relation.
Ouais.
Sur les différents personnages, il y a quand même du potentiel.
Bah, ce que tu me disais aussi à un moment donné, tu réagissais bien, tu disais, non mais on voit tout de suite vers comment les couples se forment, je crois que c'est comme ça que tu l'avais dit.
Ah ben clairement, je veux dire...
L'organisation des duos en fait, ouais.
Je veux dire, les couples, alors moi, y en a deux, bon, je connais un petit peu, de loin, avec...
Il nous a dit.
Voilà, parce que bon, les films Star Trek, je les connais un petit peu, donc forcément, voilà, je sais ce qui se passe, mais enfin bon, il y en a quand même une qui s'appelle Crusher. C'est son crush, c'est littéralement son crush. Je veux dire, tu peux pas faire plus.
Et c'est très rigolo en fait la manière dont c'est très rigolo. Disons que c'est pour l'époque, je pense qu'ils sont vraiment, enfin si on met dans les années 80, je pense qu'ils sont vraiment dans la pure logique de mise en place de personnages. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu définis par leur gimmick en fait. C'est-à-dire que l'épisode va pas rentrer full bourre dans la psyché du personnage, dans comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il est construit, pourquoi il pense ça, pourquoi il y réfléchit comme ça. Non, on va d'abord présenter un peu la surface et t'inviter justement après dans les épisodes suivants à découvrir ce qui se cache sous cette couche de vernis sur ce qu'il y a de plus en fait.
Ah, il y a un petit peu quand même sur Data, oui. L'Android quand même, où on rentre un petit peu. Mais c'est vrai que sur les autres, c'est très superficiel. Je pense à Jordi où il n'a rien fait. Mais alors, je veux dire, j'ai l'impression de voir Cyclope tel qu'il est pensé par certains, c'est-à-dire le type qui est là mais qui fait rien en fait.
Ouais. Alors pour les, forcément, je peux pas tout dire sans trop en révéler, surtout si les gens veulent essayer de s'y mettre et découvrir derrière.
Après dans.
C'est Next Generation, il est connu que durant les deux premières saisons, c'est dur.
D'accord.
Faut s'accrocher. Certains épisodes qui sont vraiment très très bien foutus, c'est-à-dire qu'il découvre beaucoup de potentiel, mais il y a aussi des épisodes où il y a pas mal de temps mort et d'essoufflement, quoi. Ça prend vraiment son envol à partir de la fameuse barbe de Riker.
D'accord.
Et je sais que tu as noté que merde, sans barbe, Riker c'est pas le même.
Ah ben non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Et est-ce que tu connais le fameux effet barbe de Riker ou pas?
Pas tellement, je l'ai déjà vu, enfin je l'ai vu surtout avec sa barbe en fait, donc ça me faisait bizarre de le voir sans, mais voilà, mais non, mais je sais pas vraiment, enfin je sais pas trop ce qui se passe, non, ça pour là-dessus je vais être un peu, je vais découvrir au fil du temps.
Ouais, en fait, il s'agit d'une évolution pileuse du personnage durant la série. Il se passe que, disons que le succès de la série et la qualité de la série a commencé à s'améliorer à partir du moment où Riker a commencé à avoir une barbe durant le show.
Très bien, ok.
Et du coup, les scénaristes et les producteurs ont conclu qu'il y avait un effet positif. Il fait que maintenant, dans le milieu de l'écriture, de la production télévisuelle américaine, des trucs comme ça, il y a un effet barbe de Riker en fait qui a été théorisé.
D'accord.
Voilà.
Il faut qu'il y ait un personnage principal barbu, quoi. D'accord.
On pourrait dire que c'est un vrai truc, parce qu'on retrouve ça sur le personnage du capitaine Sisko dans Deep Space Nine aussi.
Ouais, ça expliquerait aussi pourquoi on est passé au type barbu dans les jeux vidéo aussi. Mine de rien, il y en a de plus en plus. Ça a été un vrai effet de mode à un moment. Mais après, je te dis, tu me disais qu'il y a des saisons où il fallait s'accrocher dans Star Trek. C'est pareil, il y a des saisons où il faut s'accrocher dans Doctor Who.
Ouais.
Alors après, ce qui est bien, c'est que c'est pas les premières. je vais pas gâcher la surprise de suite, mais il y a des saisons dans Doctor Who où c'est compliqué. Je vais pas le cacher.
Ouais. Alors, j'y reviendrai sur tout ce qui est événement de production pour l'épisode et expliquer.
Oui, oui, oui.
Finalement, c'est un petit peu compliqué, mais je voudrais peut-être qu'on parle de Doctor Who, parce que moi, Tom Baker, je crois que j'ai pas vu énormément de choses de lui.
Bah, si dans ce que t'as vu, t'as les choses que je t'ai montrées à une certaine époque, en effet, on n'a pas regardé de Tom Baker ensemble. Puisque même, on avait regardé... je crois le plus ancien qu'on avait regardé ensemble, c'était du premier Docteur et des épisodes multi-Docteur.
Ouais.
Et Tom Baker est réputé pour ne pratiquement jamais participer aux épisodes multi-Docteur, en fait. Voilà.
Ça s'explique par un choix ou un peu démesuré.
Alors, ça s'explique parce que dans le premier, il n'était pas là, puisque c'était que les trois premiers. C'est normal. Le deuxième, en fait, il venait de partir. Et donc en fait il voulait pas forcément faire de l'ombre, surtout que son nom pesait. Tom Baker, c'est celui qui est resté le plus longtemps en tant que docteur, il est resté 7 ans.
Putain, c'est ouf.
Voilà, et c'est 7 ans dans la série classique, c'est pas 7 ans aujourd'hui où en fait on a une année, on a peut-être 13 épisodes. Non, 7 ans c'est... t'as quand même chaque samedi t'as un épisode de Doctor Who.
Sur un mode de production stakhanoviste en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Bon, il y a quand même des si tu veux des petites pauses, mais on est quand même sur quand même il a énormément d'histoires. Je te dis, ça commence avec au numéro 75 et attends, j'essaye de me souvenir. Et techniquement au niveau des histoires, ça s'arrête à l'histoire 115. Donc de 74 à 81.
Ça fait pas mal. Moi, ce qui m'a marqué dans le premier visionnage, effectivement, c'est le... Alors, outre le fait qu'on redémarre quasiment sur la fin du quatrième Docteur, parce que du coup, c'est le cinquième, si j'ai pas de bêtises.
Non, c'est le quatrième.
C'est le quatrième, je me gourre. Ah, putain. Ça y est, je vais me faire claquer.
Non. 5, c'est Céleri.
Donc, c'est la fin du troisième Docteur, donc la naissance du quatrième Docteur. En fait, c'est la personnalité que Baker arrive à mettre dedans, en fait. C'est le jeu qui est assez... pétaradant, plein d'énergie, un peu ironique aussi sur certains côtés, par certains moments en fait, avec ses les autres personnages en fait.
Bah, je pense qu'il y a, dans ce côté-là justement, c'est la partie nouveauté justement. Je t'avais dit, il me semble que c'était un peu compliqué puisque c'était écrit donc par l'ancienne équipe. Donc c'est-à-dire qu'il est, c'est le dernier épisode où Terence Dix, qui est là depuis 1968, mine de rien. Et on doit beaucoup de choses dans le monde de Doctor Who, notamment énormément de romans, en fait. Mm-hmm. Et donc c'est son dernier épisode où il est là à temps plein, en fait. Après il va partir, il va faire encore 2-3 trucs, mais c'est la dernière fois où...
Enfin, où il a la main voilà. Sur le Doctor Who, où il écrit pour Doctor Who, voilà.
En tout cas de façon régulière.
Ouais.
Et c'est pareil, c'est le dernier aussi de Barry Letts qui avait fait toute l'époque du troisième pratiquement.
Donc c'est un peu le chant du cygne quoi en fait.
Voilà, donc c'est un peu le chant du cygne et on savait en fait ça. Il a été tourné en même temps que l'épisode où le troisième docteur meurt. Ce qui veut dire que Sarah Jane et le brigadier en fait arrêtent pas d'aller d'un plateau à l'autre en fait. Ce qui est assez rigolo. Et donc du coup en fait jusqu'à en fait ils savaient pas trop en fait qui ils allaient caster. Donc
tu veux dire qu'il y avait une inconnue sur si c'était vraiment Tom Baker qui allait être Caradoc. En gros, on savait pas qui était le docteur.
Voilà. Jusqu'à assez tard dans la production, on ne savait pas qui allait jouer le docteur. Ça s'est révélé être Tom Baker qui est un acteur qui est pas très connu, qui avait quand même joué dans un film de Pasolini quand même.
Ça va.
Voilà. Alors pas un grand rôle, mais il avait quand même joué dans un film comme ça. Mais son boulot, il travaille sur un chantier. Hein.
C'est un acteur c'est un comédien on va dire semi-professionnel en fait.
Ouais, il est un peu dilettante et tout ça, et c'est en fait il cherchait forcément quelqu'un d'excentrique. Mmh. Et le problème c'est quand tu cherches quelqu'un d'excentrique, tu récupères quelqu'un d'excentrique, donc ça va ça va poser quelques petits problèmes par la suite, mais à ce moment-là ça se passe vraiment bien. Et donc du coup, comme ils savaient pas trop, ils l'ont écrit un peu de façon générique, c'est-à-dire c'est ton docteur qui a pas encore énormément de personnalité, donc il est rigolo, voilà. Et on sait pas trop si ça va être un jeune ou un vieux, donc au cas où, si ça va être un vieux, on lui met un acteur masculin qui va pouvoir faire des scènes d'action au cas où.
Donc le fameux commandant Sullivan, enfin le lieutenant Sullivan, pardon.
Voilà, qui du coup ne fait pas grand chose dans cette histoire, mine de rien.
Il fait James Bond à la fin quand même.
Ouais, mais justement, il se fait rapidement capturer et tout ça, et tu peux te dire que si jamais le docteur avait été un personnage plus vieux, il aurait sans doute eu plus de choses à faire.
Oui, mais James Bond, il se fait aussi bien capturer à la fin dans la base des méchants, et il parvient quand même à s'en sortir, enfin bon...
Ouais, non mais bon, c'est... Je pense que son rôle aurait pu être plus grand si jamais un autre docteur avait été casté.
Ouais.
Et je pense que tu disais qu'il était un peu plus ironique.
Oui, sur ses petites réflexions par rapport au brigadier, ou enfin sur certaines... Sur certains problèmes, par exemple, où les personnages ont l'air de buter sur des questions purement d'intelligence, en fait.
Ouais, et je pense qu'en fait, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai choisi comme étant un début, en fait. C'est-à-dire que Doctor Who, pour moi, est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, en fait. Si à un moment, t'aimes pas Doctor Who, reviens quelques années après, en fait, la série aura changé, et il y a moyen que tu kiffes, en fait. C'est
intéressant que tu prennes par ce bout-là, parce que si on repart sur la comparaison entre l'épisode de Star Trek que j'ai proposé, l'épisode de Doctor Who que tu as proposé, c'est vrai qu'il y a une question de rythme qui est très différente sur les deux épisodes, en fait. L'épisode de Doctor Who, j'ai trouvé, est vachement plus rythmé, mais parce qu'il y a le mode sériel qui est derrière.
Oui, bah oui. T'es obligé de mettre un cliffhanger toutes les 25 minutes
c'est
à peu
ça.
Près.
Et je suis pas insensible à ça parce que moi, Indiana Jones, et je pense que c'est pareil pour toi, est sur ta pile de DVD en haut, pas très loin de Retour vers le futur, ce genre de choses. Qui sont...
Alors, pas tous les épisodes, mais le 1 et le 3, oui.
Oui, voilà. Mais il y a ce rythme-là qui... et cette manière aussi de réaliser, parce que ça se voit aussi. Moi, j'ai l'impression en fait qu'ils n'ont pas tant évolué que ça en termes de manière de construire les scénarios, de construire les épisodes, que depuis les années 30, en fait. C'est un peu la même manière de faire, quoi. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faut tourner vite, il faut que l'histoire tienne debout, il faut qu'il y ait de l'action. Et comme tu m'as dit à un moment donné dans le visionnage, bah, si les acteurs croient à ce qu'ils disent dans leur personnage et que les spectateurs accrochent, c'est bon, c'est gagné. C'est 50% du travail qui est fait, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il y a le côté jeu d'acteur et il y a le côté scénario-ambiance aussi, qui pour moi sont les deux mamelles de Doctor Who, quelque part. Et justement, pour moi, en termes de début et de montrer et de dire, bah voilà, on va changer de direction, on va repartir dans une nouvelle direction, c'est vachement intéressant de mettre le nouveau docteur dans la situation où était l'ancien et de montrer en quoi bah là maintenant ça marche plus.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que le moment où... Enfin, on est d'accord que le 3 donc, était conseiller scientifique, membre actif de l'UNIT.
Oui, tout à fait.
Du coup, c'est quoi la différence justement quand Tom Baker arrive, en fait, qu'est-ce qui se passe?
Alors, comme je t'ai dit, derrière, il y a des changements aussi de scénaristes. C'est à Robert Holmes et Philippe Hinchcliffe, en fait, qui arrivent dans l'équipe créative. Donc qui veulent justement donner une nouvelle impulsion qu'on va sans doute voir au fil des épisodes. Je pense pas qu'on va repartir de suite sur du quatrième docteur, mais à un moment on va bien retomber dans du quatrième docteur et tu vas pouvoir voir justement l'évolution. On va partir peut-être au début sur quelque chose de plus gothique et dans l'idée que on peut prendre Doctor Who et en fait le mettre dans des histoires qui existent déjà et voir ce que le docteur peut changer en fait. Plutôt que de créer des choses qui sont totalement nouvelles, prendre un contexte connu et il fout juste le docteur et voir comment il réagit.
Ouais, c'est le poisson dans une autre eau, en fait.
Voilà, ce qui va être à peu près ce qui va se passer sur l'ère Hinchcliffe et Holmes, quoi. Et justement là t'as l'ancienne équipe qui écrit avec ce nouveau docteur, et tu vois bien que ce nouveau docteur, il aime absolument pas suivre les ordres. Alors le troisième docteur aimait pas beaucoup ça non plus, mais si tu veux, il le faisait.
Ouais, il gardait le doigt sur la couture, quoi, parce que Yonit, mine de rien, c'est quand même militaire à la base, un peu militaire, quoi.
Ouais, c'est ça, il aimait pas trop bosser avec des militaires, mais il aime bien le brigadier. Bon voilà, il a son petit labo, il a sa petite voiture, tu vois, le troisième docteur aimait bien être un peu un homme d'action et tout ça, en fait.
Tu m'as sorti comme durant les moments qu'on visionnait l'épisode, tu m'as dit le troisième docteur était quand même un bon de droite, quand même.
Alors,
il avait le discours de gauchiste, mais il était un peu de droite.
C'est. Oui, bah, je pense que ça va parfaitement aussi avec l'acteur qui est John Pertwee. Si tu veux, ouais, c'est celui que tu vois le plus être un Tory, quoi. C'est pas un... Il est là, ouais, c'est... Il va pas voter les bourgs, quoi. Celui-là, il va pas voter les bourgs. Si tu veux, il a quand même les choses de docteur, donc c'est-à-dire que quand il faut faire le beau discours contre les méchants et tout ça, bon, bah, il le fait. Mais c'est-à-dire que tu le fous dans une pièce un peu cossue et tout ça, bon, bah, il va aller se prendre un petit verre. Je l'ai déjà vu faire, hein.
Bon, de ce que j'ai compris, le quatrième docteur, il était pas contre non plus, hein. Mais en dehors du tournage.
Alors,
et avec le brigadier,
ouais.
Aussi
en dehors du tournage, et en effet, oui, il aimait beaucoup, beaucoup boire. Je pense qu'il aime toujours boire d'ailleurs. Si tu veux, t'as vraiment cette tu passes vraiment de quelqu'un qui acceptait en fait l'autorité, Donc ce qui, pour le docteur, est un changement quand même assez incroyable. Puisque je crois que tous les autres docteurs ont un problème avec l'autorité. C'est un peu une des... Voilà, c'est celui qui accepte le mieux l'autorité. C'est-à-dire qu'il va ronchonner, mais en fait, au final, il le fait quand même.
Bah, pour moi, c'est un peu, ça fait un peu partie du principe de Doctor Who. C'est-à-dire qu'à la base, pour moi, il s'est vraiment cassé de Gallifrey parce qu'il en avait ras-le-bol, quoi.
Ouais, donc, mais après,
c'est mon point de vue de fan. Hein, c'est pas.
Ouais. C'est des trucs qui étaient pas dits en fait à la base et qui sont arrivés au fil du temps en fait. Ça.
D'accord.
C'est-à-dire que en fait, tu sais pourquoi il est parti. C'est la fin du deuxième Docteur. Il dit, je m'ennuyais. Voilà. Donc, alors, c'était là. Hein, attention. Mais si tu veux, ouais, c'est pas quelque chose qui va être toujours là en fait.
C'est vrai que le docteur, donc, qui n'écoute pas les ordres, qu'est-ce qui m'a marqué là-dedans, c'est vrai qu'il tient. En fait, dans le fait qu'il n'écoute pas les ordres, c'est qu'il tient pas en place. C'est un trait caractéristique sur cet épisode-là, c'est que comment dire, quand il s'agit d'aller dans la base, enfin dans le laboratoire du docteur Kellwether, de faire ses démarches tout seul, en fait, il n'hésite pas du tout, quoi. Alors, je suppose que le troisième le faisait aussi, mais lui, enfin, même s'il se retrouve du coup faire un face à face avec un robot, ben, c'est pas grave, j'y vais quand même, quoi.
Le troisième était très physique, si tu veux, c'est lui qui est, enfin, le. Il connaît l'aïkido vénusien par exemple.
Aïkido vénusienne versus prise vulcaine, on vous laisse juger.
C'est ça. Bah, il y a plus de mouvements dans l'aïkido vénusien quand même. Donc visuellement, c'est quand même plus sympa. Mais je pense que la prise vulcaine est plus rapide. Voilà, donc on va dire match nul. Oui, il était quand même un peu plus casanier, c'est-à-dire qu'il allait dire généralement où est-ce qu'il était, ou tout ça, enfin voilà, tu vois. Ça lui arrivait régulièrement de partir avec le brigadier et les hommes de l'unit à l'attaque, tu vois. Là où en effet, oui, c'est plus un électron libre, enfin c'est de toute façon Tom Baker, tu peux le dire comme un électron libre. Et justement, c'est assez intéressant, puisque, comme tu dis, il n'hésite pas à y aller, alors que... Un peu tout le truc dans l'épisode de Star Trek que tu m'as montré, il y a aussi une question de est-ce qu'on doit y aller ou pas.
De se questionner sur ce qu'on doit faire et surtout comment on le fait et surtout comment on répond aux enjeux en fait. C'est vrai que ça pour le coup c'est un trait de caractère de la série. Déjà la série des années 60 avait ça, c'est comment est-ce qu'on résout le problème qu'on a face à nous et en prenant en compte au maximum les conséquences, les avis aussi des que ce soit en fait la vie des peut-être des peuplades qu'on rencontre ou surtout aussi du danger. Il y a surtout aussi l'intégrité du vaisseau qui est aussi principale, surtout que ça change aussi un peu de taille parce que une chose qui est dite dans l'épisode, c'est comme dit Picard, c'est que maintenant j'ai des enfants à bord et leur famille, c'est plus la même chose. Effectivement, parce que on comprend que dans la série originale, en fait, avec Kirk et Spock, on avait des vaisseaux qui étaient plutôt. Là, je parle vraiment dans la mythologie de la série. On avait des vaisseaux qui étaient plus typés militaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de famille à bord, c'était très spartiate, etc.
Oui, là, c'était plus explorateur à la colon.
C'était plus explorateur à la colon.
Que vaisseau de. Enfin, colon, quoi. Juste. Enfin. Ouais,
ouais,
du coup, ça fait.
De colon pur, ouais. Mais en fait. En fait, là, ouais, on se retrouve. On représente aussi l'évolution qu'il y a eu au sein de Starfleet. C'est que maintenant, en fait, les membres de Starfleet peuvent partir sur un vaisseau d'exploration galactique et emmener leur famille avec eux, quoi. En fait, c'est moins contraignant, on va dire ça comme ça, pour le personnel, quoi. Et ça change aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que du coup, dans la série originale, par exemple, Kirk dit souvent « Ouais, j'ai la responsabilité du vaisseau et de 400 mecs. Bah, » Picard, lui, maintenant, il a la responsabilité du vaisseau, 400 mecs et leur famille. Enfin, quand j'ai 400 mecs, c'est général, hein, c'est-à-dire 400 membres d'équipage et quelques. Mais disons que les enjeux ont changé. C'est plus du tout aussi comment dire militaire que ça peut l'être, quoi, en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui est un peu plus un peu plus particulier aussi avec Next Generation, c'est qu'il y a plus... même si le côté militaire existe, on va pouvoir se permettre à l'avenir, dans l'écriture de certains épisodes, d'être plus à la cool. En fait, le meilleur exemple, pour résumer tout ça, c'est la présence à bord de Wesley Crusher, qui est le fils
Crush.
De la médecin-chef de Dr. Crusher, qui à la fois est là pour représenter justement que du coup, maintenant, on peut avoir sa famille à bord d'un vaisseau galactique. Mm-hmm. Et c'est aussi un rappel pour une intrigue qui lie le capitaine Picard, Crusher et Wesley Crusher, c'est-à-dire la relation qu'il a eue avec son père, qui a été un de ses amis et un de ses officiers de bord. Mmh. Et c'est une des évolutions, c'est une des nouvelles évolutions sur lesquelles il faut avoir en tête quand on part avec Next Generation. Quoi, en fait. Mmh. Ça renforce aussi son côté show familial, qui est à la fois un avantage et un défaut, c'est-à-dire que des fois, sur certains thèmes, tu peux te permettre d'aborder des choses très, très poignantes, et sur certaines, tu te retrouves vite un peu limité. Quoi, en fait.
Après, c'est tout le principe de la science-fiction de pouvoir parler quand même de ces choses-là via des métaphores.
Ouais, tout à fait. Il y a une des choses aussi qui est très rigolote par rapport à ça, mais en termes d'apprentissage de l'humanité, c'est le personnage de Data qui est résumé par par une bonne réplique de Riker, du commandant Riker, qui Pinocchio ou Bravo Pinocchio, je sais plus exactement quelle était la réplique précise, mais c'est moi quand je l'ai entendu la première fois cette réplique, tu vois, ça m'a fait penser que c'est extrêmement tendre. Mm-hmm. Il y a un petit jugement un peu ironique, mais c'est très tendre dans la bouche de Riker.
Oui, tu vois bien que c'est tendre aussi avec la suite justement. T'as Data donc qui commence à quand ils sont dans la vieille cité Bandy. T'as vu, j'ai retenu les titres. tu sais, t'as les ils sont Data qui est en train de dire des choses genre ça, on a l'impression que c'est un peu la même chose tout ça, et puis il dit oh, désolé, je parle un peu trop et tout ça, et puis t'as Riker justement qui lui dit bah non, c'est bien, continue.
C'est un trait très positif, c'est un des nombreux traits très positifs de la série. En fait, ce que je voudrais aussi, si les auditeurs écoutent, je voudrais aussi les rassurer aussi, on est en 2020, et quand on prend en fait la série telle qu'elle a été écrite dans les années 80, sur tout le côté utopique et sur tout le côté ouverture d'esprit, si on le reprend telle qu'elle a été écrite à la fin des années 80, début 90, il y a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, ça me permet de faire une transition, attention, qui sont l'ouverture d'esprit, la compréhension, la tolérance, le rapport homme-femme aussi, même si bon, par certains côtés des fois il y a des touches un peu sexistes, on va pas se mentir, mais il y a quand même une compréhension de l'autre aussi qui est vraiment mise en avant, et au fur et à mesure des épisodes, si vous vous accrochez, si vous arrivez à dépasser ça, vous allez voir que la série dit énormément de choses, que ce soit sur la justice, que ce soit sur la loi, que ce soit sur la philosophie. Star Trek a toujours eu une réputation de série un peu philo. Parfois philo de bas étage, mais un peu de réflexion aussi philosophique. Et moi, ça m'a fait le même effet aussi dans cet épisode de Doctor Who, où ça parle quand même d'écologie, ça parle de problèmes de ressources.
Oui.
Alors, on est en 70, j'imagine que... 70-74, donc il y a eu des chocs pétroliers à ce moment-là. Et il y a une histoire de métal qui arrive à se recycler quasiment automatiquement, si j'ai bien compris. Enfin, il y a des thématiques super actuelles, en fait. Super modernes, quoi.
Doctor Who a été très pertinent pendant un sacré moment dans sa période classique. Hein. Je veux dire, Doctor Who a commencé assez bizarrement comme étant un peu l'établissement britannique à son summum. C'est ce que tu peux voir dans les premiers épisodes de William Hartnell, en fait. Il est un peu vraiment...
vieille Angleterre, vieille Angleterre, disons, Angleterre sous-British, quoi.
Voilà, et c'est-à-dire que la BBC peut être vue comme un des derniers bastions de l'Angleterre victorienne, peut-être. au moment où on commence, au début des années 60, mais très très vite, et même déjà à l'époque du premier Docteur, en fait, il y a un moment où il devient une force du chaos. Et une force du chaos par rapport à l'établissement britannique. Donc quelque chose qui est une force qui, pour nous, va dans le bon sens, si tu veux, au final. Ouais. C'est... En fait, ça se déroule en fait à peu près au moment où justement il a plus sa petite fille. C'est-à-dire qu'en fait, jusque-là, pour moi, il était un peu gêné par le côté. Il fallait qu'il soit le grand-père.
Il fallait que je sois un exemple.
Voilà, il fallait qu'il soit un exemple. Et à partir du moment où on lui enlevait ça, et en fait, on lui a mis une autre compagne un peu plus jeune, mais qui n'est pas sa petite fille, alors là, ça devient mais le troublion ultime.
Le poil à gratter. En
C'est
fait, c'est
ça.
ça qui est intéressant. C'est un poil à gratter qui empêche de penser en rond. Alors, pour le meilleur et pour le pire.
C'est ça, c'est. Directement juste après, tu passes donc de cette personne un peu sage à bon, Néron il fait chier, on fait brûler Rome. Littéralement. Donc voilà, et donc oui, Doctor Who a énormément aidé un peu aussi à la culture un peu hippie, mine de rien. Il y a des épisodes qui sont clairement psychédéliques et qui viennent clairement de là. T'as énormément de choses en fait, t'as beaucoup d'écologie, du féminisme, oui. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends l'époque du second docteur, oui, t'as une femme qui vient du futur, qui sert de compagnon, qui s'appelle Zoé Henriot, qui est, au niveau technologique, l'équivalent du docteur. C'est-à-dire que, voilà, si jamais on doit tripatouiller des fils, Zoé, viens là.
Et en parlant de compagnons et de compagnons féminins, c'est vrai qu'il y a Sarah Jane. Et alors moi, je savais que Sarah Jane était connue aussi pour la série Sarah Jane Adventures, avec
Oui.
le personnage de Canine. Mais moi, là pour le coup, j'ai vraiment découvert Sarah Jane en fait. Et je suis beaucoup plus attaché à ce personnage en fait, avec son caractère de je suis journaliste, mais moi j'hésite pas à outrepasser, comment dire, les limites d'un laboratoire top secret. Normalement, j'ai pas autorisation d'y aller. Mais c'est une femme forte. Elle se laisse pas marcher sur les pieds pour rien, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, excuse-moi de partir dans une comparaison comic bookienne. Mais
Avec toi, ça va être compliqué.
voilà, ouais, je sais. Mais oui, non, c'est Sarah Jane, c'est un peu une Lois Lane quand elle est bien écrite, en fait.
D'accord.
Donc justement, c'est la journaliste qui a pas peur, qui va foncer dans le danger, qui des fois va se retrouver en effet elle-même en danger, mais qui généralement arrive à s'en sortir toute seule la plupart du temps. Voilà, c'est ça Sarah Jane, c'est ça Lois Lane aussi. Donc c'est et c'est vraiment intéressant d'avoir mis ça. Ouais.
Je vais peut-être partir sur un autre sujet. T'as vu pu aborder toi le pardon.
Vas-y, vas-y.
Tu as pu aborder toi le côté production un petit peu de l'épisode. Moi, je vais revenir un petit peu sur celui de Star Trek et expliquer un petit peu pourquoi effectivement le premier épisode de la saison 1 il est loin d'être évident en fait.
Alors, attends deux
Vas-y.
secondes, je voudrais juste faire un truc avant que tu m'expliques tout. C'est-à-dire qu'en
Vas-y.
fait, c'est un sentiment que j'ai l'impression qu'il y a deux épisodes dans ce truc. C'est-à-dire qu'il y a celui avec Farpoint.
Ouais.
Et il y a l'épisode avec Q, et j'ai l'impression qu'ils ont fait un mix.
Et alors en fait, t'es pas loin de ça.
Ah, vas-y.
Par exemple, Jonathan Frakes, qui est l'acteur qui joue le commandeur William Riker, en post-tournage, a eu la réflexion à peu près similaire, c'est-à-dire que pour lui, l'épisode, il était un peu mou sur certains côtés, et que ça manquait d'unité. Et en fait, ça se traduit tout simplement par la production de l'épisode qui a été un poil compliqué. En fait, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu de longues, très longues discussions entre les producteurs de la série télévisée et Gene Roddenberry, parce que Roddenberry, il avait passé énormément de temps sur la série originale, ça lui avait un peu bouffé sa vie, mine de rien. C'est-à-dire qu'au point que ça avait failli faire un peu exploser sa famille, quoi. Donc, mine de rien, il voulait pas. Il était un peu réticent en fait à repartir dans un cycle de production un peu compliqué.
Ouais, ça peut se comprendre.
Voilà. Et en même temps, les producteurs avaient quand même un peu l'intention en fait de rentabiliser un peu l'exploitation de la série. C'est-à-dire qu'ils voulaient le passer en mode syndication et ils voulaient marquer le coup avec un gros épisode d'une heure. Les producteurs étaient un petit peu inquiet parce qu'il savait pas trop si Roddenberry était partant pour ça quoi. Il y a eu un sacré paquet d'heures de discussion, de table ronde, etc. jusqu'à ce que finalement Roddenberry donne son accord sans forcément que le producteur ou Roddenberry s'arrête sur le format de l'épisode, sur le temps
Alloué.
le temps alloué. Donc, c'était jusqu'à quasiment la fin d'écriture du script et avant le tournage, un truc qui était apparemment assez inconnu. C'est-à-dire que, en gros, ils avaient, si tu veux, quasiment fini le script au moment où ils ont dit « Ok, l'épisode fera une heure ».
D'accord.
Et ce qui peut amener, à mon avis, des problèmes de tournage, des problèmes de ce qui peut expliquer un peu aussi les problèmes de temps, de mou, en fait, dans certains épisodes, etc. Même si tu as certaines manières de filmer, et ça j'ai pu le noter plein de fois durant l'épisode, c'est que je me suis dit « Putain, il y a des mouvements de caméra, c'est pas dégueu ». Enfin, c'est assez rapide, il y a des plans rapprochés sur certains visages, on suit des personnages qui se déroulent sur la passerelle, c'est pas plan-plan. Et je vais avancer un petit peu dans l'écriture. En fait, Roddenberry, il était impliqué sur la production de l'épisode, et pour s'aider dans l'écriture même du script, en fait, il a fait appel à DC Fontana. Et DC Fontana, ce qu'il faut savoir, c'est une auteure de Star Trek qui a travaillé sur la série originale.
Ouais.
Et en fait, il a fait appel à elle pour qu'elle écrive l'épisode Rencontre à Farpoint.
D'accord.
Donc en fait, c'est à elle qu'on doit toute l'intrigue de Farpoint sur l'intégration des différents personnages, sur le pitch justement avec les aliens, avec cette espèce de cité qui se construit quasiment automatiquement au bon vouloir.
D'accord.
Et elle a fait, on va dire, le plus gros du travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Roddenberry a récupéré le script, en fait, il a intégré le personnage de Q. Et t'es pas sans savoir, toi aussi, que quand t'as déjà un script et que tu balances un pitch comme ça de Q au milieu de ton scénar, où est-ce que tu le mets, comment tu le mets, il y a plein de questions, en fait, de comment le personnage s'intègre là-dedans, et... à force de réécriture, ils sont parvenus à avoir un script à peu près correct, mais DC Fontana en a gardé quand même, de ce que j'ai compris à la lecture, des ressentiments vis-à-vis de Roddenberry, parce que c'était plus tellement son script tel qu'elle l'avait conçu, et que Roddenberry finalement avait un peu fait son Roddenberry, ce qui s'est après révélé justifié, puisque le personnage de Q est devenu quelque chose d'assez mythique dans la série par la suite, mais sur le moment c'était un peu forcé, c'était un peu lourd, et ça alourdissait en fait le script.
C'est un peu là ce que je me dis quand tu me le dis. Je pense que justement l'épisode originel Rencontre à Farpoint aurait sans doute beaucoup mieux marché en termes de premier épisode, par contre. Justement un truc où ils vont chercher une partie de l'équipage sur une autre base, il y a un mystère là-dedans et tout ça, on aurait eu le temps de faire connaissance, on aurait eu sans doute plein de choses. Je pense qu'en termes, je pense pas à la série après, je parle en termes juste de l'épisode en lui-même, je pense qu'il aurait été mieux malheureusement.
Ah, si on prend purement comme ça, oui, en fait, c'est clair que nous aussi on a le regard en se disant que effectivement, Q en élément déclencheur, c'est vrai que c'était un peu prématuré. Et tu l'as remarqué aussi, c'est que quand il débarque, en fait, les bandes noires de coupures pub, tu les remarques très très vite.
Oui, non, mais les coupures pub, oh la vache, je veux pas être américain. Ce serait horrible. Je veux dire, il y en a un moment, et je crois d'ailleurs ça s'entend dans le mix des réactions, je l'ai mis. Il y a énormément.
Captain Picard, c'est ça. La 50e coupure pub, on peut plus.
Alors moi, en fait, moi, j'aime beaucoup le délire du journal vocal et tout ça. J'adore ça. Je trouve que c'est super sympa.
C'est un bon artifice aussi, parce que du coup, ça résume en fait l'action en cours. Et c'est vrai que c'est un truc.
C'est ça. T'as un résumé, ça fait un lien entre toutes les séries. C'est un petit rituel. Ça fait toujours du bien d'avoir un rituel qui est pas hyper long, mais qui est là. Donc, tu vois, c'est le truc de ça, c'est le TARDIS qui se pose, tu vois, c'est un rituel.
C'est une des pierres angulaires, en fait.
C'est pas long, donc t'as pas le temps vraiment de te faire chier non plus pendant des heures. Mais comme c'est là à chaque fois et tout ça, en fait, tu t'y attaches.
Et puis, c'est aussi un truc qui est. Enfin, ça rajoute la mythologie de la série, en fait, parce que. Faut pas oublier comment Roddenberry l'a conçu aussi à la base. C'est une caravane du Far West qui part dans l'espace. Mais il rajoute aussi des éléments des navigateurs du 18e siècle, 19e siècle. Donc forcément, les journaux de bord sont super importants, parce que ça permet de garder une trace écrite de ce que l'équipage fait, de ce que le capitaine décide, Donc c'est un truc qui rajoute du vivant et de la matière en fait dans les histoires.
Alors moi, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, vu que je vois que t'as un petit blanc là. pas de soucis.
C'est-à-dire que moi, je me suis tapé aussi ton couloir tout à l'heure.
Hein. Oui, oui.
Bon, c'est doucement.
non, mais justement, c'est pour venir sur un point de comparaison entre les deux ouais. qui m'a un peu frappé, c'est justement l'utilisation des anciens personnages pour faire le lien. Oui. C'est-à-dire que moi, je parlais peut-être dans la première partie d'une douille en fait, c'est-à-dire de faire accepter le nouveau personnage parce qu'il y a les anciens, tu vois. Ce qui mine de rien aide beaucoup. Alors pour Tom Baker, il en avait pas forcément besoin, mais dans d'autres cas, c'est quelque chose qui aide beaucoup à accepter le fait qu'on ait des nouveaux personnages, comme par exemple un nouveau docteur. Et donc du coup, il y a eu un ancien personnage donc qui est arrivé, mais alors. Tu m'as dit qui c'était, mais dans l'épisode, c'est quand même très 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 obscur.
C'est oui, oui, oui. C'est le personnage en fait de Bones qui apparaît au moment en fait où l'Enterprise s'apprête à repartir en fait, à sortir en fait de sa zone de on va dire pas d'atterrissage, mais de situation au niveau du vaisseau. Et on vous explique qu'ils ne peuvent pas encore partir parce qu'il y a un amiral qui doit partir. Cet amiral, il est escorté de Data. Et cet amiral, en fait, c'est Bones, très vieux. Donc c'est le docteur Bones, c'est le docteur McCoy de la série originale. Donc DeForest Kelly, maquillé, blanchi, la peau, une fausse peau, etc.
Ah oui, ils ont mis la totale quand même.
Ah oui, oui, ils ont fait le forcing. Hein. Ils ont très très forcing, très... Sur l'acteur. Et il est accompagné de Data qui lui fait un petit speech en lui donnant un conseil. Bah, en gros, prenez soin de l'Enterprise, elle vous tiendra, elle sera avec vous, elle vous ramènera toujours à bon port. Et alors, c'est moins. Ça peut être moins subtil que ça a pu être fait sur Doctor Who, je trouve, parce que là, on est vraiment dans la scène clin d'œil.
Ah oui,
ça a
oui.
été. Il faut dire que dans la production d'épisode, en fait, ça a été intégré par Roddenberry sur une demande de DeForest Kelly au moment où la série était encore en production. Enfin, l'épisode était encore en production. Et personne au niveau de la. Enfin, très peu de personnes savaient que Forrest Kelly était sur le plateau, en fait. Ah. DeForest Kelly était sur le plateau. Donc, c'était un peu la surprise. Il était enregistré sous le nom de code Amiral, en fait, dans le script de l'épisode.
Oui, pour garder le... Oui.
Pour garder la surprise. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'a pas demandé, en fait, à toucher quoi que ce soit en termes de gage, en fait.
Ah.
C'était un peu sa manière à lui de dire merci à Roddenberry de l'avoir embarqué, en fait, dans cette aventure spatiale qui a duré très très longtemps et qui lui a donné cette stature aussi avec son personnage. Et... C'est un clin d'œil, on va dire, c'est très simple. Enfin, en même temps, je trouve ça très simple et très touchant, mais c'est pas le plus beau.
Ouais, enfin, c'est
très simple, en fait.
C'est ça.
Un petit clin d'œil.
Et
c'est un truc, si tu veux, qui est pas dispensable, mais qui est pas non plus utile au scénar, très franchement.
Ouais, non, mais après, ça fait plaisir. Par contre, du coup, il descendait sur la station Farpoint, l'amiral.
En fait, l'amiral, si tu veux, si tu te souviens de plan, en fait, tu vois l'Enterprise et tu vois l'USS Hood qui est en stand-by.
C'était ça, le Hood.
C'était ça, le Hood, voilà. Okay. L'USS Hood, en fait, c'est le vaisseau galactique de classe, je crois, Excelsior, qui est juste à côté et qui repart après. En fait, il devait récupérer l'amiral et il file après sur autre chose.
Voilà, et donc c'est là que tu vois qu'il y a quand même des trucs qui, moi, du coup, j'ai pas tout...
Je crois que ça démontre aussi que...
Que tu l'as vu plusieurs fois.
Alors déjà que ça montre je l'ai vu plusieurs fois, que je suis un peu dingue, que déjà je suis capable de mettre USS Hood en entier et de me rappeler de la classe du vaisseau.
Ouais, ça c'est pas mal.
Ça fait beaucoup. Ouais, non, effectivement, ça montre un peu les complications de... Enfin, les limites aussi de l'épisode. En fait, pour définitivement mettre le point dessus sur cette histoire d'épisode qui dure une heure, il faut savoir que les producteurs, enfin, la maison de production, en fait, qui a les droits, enfin, qui exploite un peu Star Trek, etc., à l'époque, voulait le vendre en syndication. En fait.
C'est la Paramount.
Ouais, tout à fait, c'est la Paramount. Et en fait, le système de syndication, ce qui se passe, c'est que en gros, on vend la série à des chaînes, des groupements de chaînes de TV locales, pour que celle-ci soit diffusée en fait par celle-ci sans forcément dans le bon ordre, mais comment dire, de manière en fait à avoir des programmes quoi, en fait, qui puissent tourner quoi, en fait. Et ce qui fait que le pilote d'une heure ensuite a été redécoupé en pilote de 50 minutes, enfin de je crois que le pilote a été redécoupé en deux par la suite pour les chaînes en fait. Et c'est ce qui explique à mon avis aussi l'imbroglio que ça peut avoir sur la lecture et la compréhension de l'épisode, parce que même à un moment donné, je me souviens maintenant de ça, c'est que quand t'as Riker qui arrive sur le pont de l'Enterprise, qui fait son salut à Picard, qui se présente et tout, et qui lui dit d'abord vous allez voir un truc pour comprendre ce que c'est notre petite aventure qui nous est arrivée. Alors déjà je trouve ça vachement mis en abîme, et puis surtout les caméras de l'Enterprise elles sont fortes hein, pour aller voir des plans comme ça.
Ah bah oui, mais bon ça c'est... Hey.
Mais voilà, il y a plein de... En fait, mine de rien, c'est un début, et en même temps, tu sens que c'est un début qui est un peu chaotique. C'est en ça que c'est aussi quelque chose qui colle, en fait, à cette série. C'est qu'elle va avoir un début un peu compliqué, ouais. Elle va mettre du temps pour pouvoir se développer pleinement, et il faudra attendre quelques épisodes pour pouvoir vraiment en découvrir la quintessence, en fait.
D'accord.
Mais ça ne doit pas, encore une fois... Enfin, j'ai conseillé ces épisodes à certains de mes amis et ils se sont accrochés. Alors après, ils sont pas dupes, ils connaissent bien les ficelles et les techniques. C'est ça aussi qui est assez rigolo en fait quand tu y penses, c'est que si tu compares la forme de l'épisode tel qu'il est construit en 70 et la manière dont il est fait dans les années 80, y a vraiment deux écoles en fait. C'est que t'as vraiment une école de l'épisode américaine, l'épisode d'une seule traite avec un seul thème.
Oui.
Qui est souvent comment dire, organisé en fonction des coupures pub, on va dire ça comme ça, alors que l'école anglaise va plutôt en tout cas l'aspiration anglaise va plutôt te donner en fait un épisode avec en plusieurs parties, un thème complet mais plein de rebondissements en fait derrière, ouais. Et pas forcément avec les coupures pub au milieu quoi, en fait.
Ouais. Après il y a je pense aussi une des principales différences qu'on va avoir quand on va devoir parler de Star Trek et Doctor Who. C'est que, comme tu l'as dit toi-même, c'est Star Trek, ça a été beaucoup fait en syndication. C'est-à-dire qu'il faut faire plaisir aux chaînes à qui on va le faire passer. Tandis que Doctor Who est fait par la BBC, pour la BBC, et après on voit.
Mm-hmm.
Donc je pense qu'il y a ça aussi, parce que par exemple, des shows anglais comme par exemple Chapeau Melon et Bottes de Cuir vont être plus dans ce que tu parlais au niveau de Star Trek.
Ouais, au niveau un épisode avec un thème précis. Et puis,
voilà. Donc oui, c'est pour ça je pense que, mais du coup qui était une autre chaîne qui s'appelle ITV, et enfin voilà, c'est une chaîne qui est un peu plus dans l'américaine, dans dans la façon de faire, que
à l'américaine,
voilà, que la BBC qui est le service public anglais. Voilà. Donc si on compare bien, en tout cas sur l'utilisation des anciennes choses, c'est par rapport au fait que c'est qu'on leur relance quelque chose, mais c'est quelque chose qui existait déjà, c'est un nouveau début en fait. Ce qui est bien, c'est que tous les deux on n'a pas pris le début.
Non.
C'est assez rigolo. Mais du coup, il y en a un qui va justement utiliser le fait qu'on ait changé les personnages pour montrer que dans l'ancien environnement. Ça ne fonctionne plus forcément, et donc peut-être que c'est pour ça qu'il va falloir changer et que c'est pour ça que ça va changer. Je pense là à Doctor Who. Et on a Star Trek, où du coup, par contre, t'as des nouveaux personnages qui vont se retrouver aussi dans un nouveau lieu et qui, du coup, là montrent peut-être une dynamique différente.
En fait, si on devait prendre par exemple on pourrait essayer de faire une comparaison avec. Un nouveau docteur, donc une régénération, et Star Trek qui est plus en fait une sorte de passage de flambeau en fait, parce que on évolue à peu près dans le même type, comment dire, d'environnement structurel, c'est-à-dire qu'on a Starfleet, on a le vaisseau, on a l'équipage. Ça c'est une, On va dire c'est les ingrédients de la recette qui mm-hmm. n'ont pas forcément changé. Ce qui va changer, c'est les personnages qui sont dedans, qui sont à bord.
Ouais, mais il y a aussi une... Tu disais justement des changements par rapport à ça, le fait qu'il y ait maintenant des familles, des enfants et tout ça.
Oui, c'est ça.
Et tout ça. Donc
il y a de légères modifications en fait qui font évoluer en fait l'univers.
Mm-hmm. Mais ouais, du coup, je vois ça quand même comme une évolution un peu notable, si mm-hmm. tu veux, sur le fait que du coup c'est pas qu'on explique pourquoi on va devoir changer d'environnement, c'est qu'on explique comment l'environnement a changé.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que l'épisode de Doctor Who que j'ai choisi explique pourquoi on va changer.
Mm-hmm. Ouais.
Et l'épisode de Star Trek explique comment on a changé,
ouais.
peut-être.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec cette analyse parce que c'est vrai que ça explique beaucoup plus les différentes variations qu'on a au sein de Star Trek, ouais, effectivement. Somme toute aussi, c'est le comment, pour moi, colle bien avec un exemple très simple. C'est que, par exemple, on a le personnage du lieutenant Worf, qui est un Klingon, mm-hmm. et qui porte les couleurs de Starfleet, et qui il est sur le pont de commandement, il est à la passerelle de commandement, il est aux consoles, il prend des décisions, on sent qu'il est impulsif. Ouais.
Donc les Klingons qui étaient les ennemis mortels,
Les Klingons sont les ennemis mortels de la série originale series. Ouais,
voilà, je savais ça. C'est juste au cas où un auditeur serait paumé avec un Klingon.
Qu'il soit pas surpris aussi, hein, parce que les Klingons n'ont pas du tout la même tronche entre la série originale et la nouvelle génération. Le design est complètement vu en fait du look des personnages, quoi. Mais c'est vrai que voilà, comment on a changé, bah on est capable en fait d'avoir un personnage Klingon sur la passerelle.
C'est ça. Et on fait aucune remarque dessus. Je veux dire, c'est un fait accepté, accompli. C'est pour ça qu'on n'explique pas. On n'a pas besoin d'expliquer.
Non, c'est ça.
Autant les androïdes, on sent que c'est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est plus ou moins accepté, mais ça peut encore étonner d'en voir un.
Alors, c'est intéressant d'en parler. On ne sait pas où ça va s'arrêter avec ça.
Non, mais si tu veux, pour les androïdes, on pourra revenir plus tard sur un épisode ou tout ça. Mais
disons que Data est un cas vraiment très, très à part, en fait, pour la série, pour la série de la nouvelle génération. Et encore plus. Tel qu'il a été présenté dans la série Picard qui a été diffusée il y a quelques temps.
Ouais, bah après là de la façon dont ça a été montré en tout cas dans cet épisode, t'as l'impression qu'il y en a d'autres, des androïdes, mm-hmm. et que ça a l'air d'être en train de s'accepter, que ça peut encore étonner d'en voir un, ça étonne Riker, en tout cas quand il le voit, mm-hmm. mais ouais. tu vois, sans forcément plus de... Tu vois, il fait « Oui, bon, d'accord, oui, ça peut marcher, tu vois. » Tu vois, alors que le Klingon, c'est déjà fait. Il n'y a personne à jamais soulever le truc, tu vois.
Oui. Ça interviendra, en fait, plus tard. C'est encore une fois, c'est ça qui est... c'est ça qui peut être parfois un peu frustrant par rapport à un spectateur peut-être qui est habitué, en fait, aux séries actuelles. On a souvent tendance à donner beaucoup de choses direct tout de suite pour que le spectateur comprenne tout de suite.
Ouais,
cette série est présentée avec pas mal de gimmicks en fait. Beaucoup de personnages en fait fonctionnent avec ça. C'est des petits trucs qui définissent un peu le personnage, mais on va vraiment révéler le personnage par la suite au fur et à mesure des épisodes. Bizarrement, c'est un truc que j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que t'as pas le personnage tout de suite dans sa totalité, dans son entier. Tu vas vraiment suivre en fait une progression.
Ok.
On va laisser et c'est aussi en ça que j'aime aussi Doctor Who par exemple, c'est que quand tu prends un nouveau docteur, au fur et à mesure que tu vas voir les épisodes, tu vas le voir aussi s'affiner, évoluer en fait. Tout comme l'acteur va essayer aussi de transformer, de changer affiner en fait sa manière de jouer le personnage, quoi, en fait.
Mais non, t'as souvent ça, oui, dans Doctor Who, t'as aussi généralement des petits arcs en fait, généralement entre les saisons pour chaque docteur, des choses qui vont évoluer. Par exemple, le troisième docteur, tout son arc, ça va être un peu de, je balance un peu comme ça, ça va être un peu de surmonter ses peurs et ça va être un peu sa dernière histoire, c'est justement est-ce qu'il va réussir à surmonter ses peurs. Et oui.
spoiler, oui.
C'est ça. Spoiler, le deuxième docteur échoue un peu justement dans son un espèce de similaire qui peut être son rapport à l'autorité et techniquement le second docteur échoue un peu à son arc.
Mais par exemple, tu vois, l'évolution des personnages, c'est un truc qui m'avait... C'est quand tu m'as dit... C'est le personnage de Benton, en fait, qui est le sergent aide-de-camp, en fait, du brigadier, qui quand elle interpelle à un moment donné Sarah Jane et qui lui fait « Oui, vous avez vu, en fait, j'ai... » Enfin, elle lui fait une remarque, je crois, sur ses galons, et lui dit « Oui, en fait, on m'a donné un nouveau grade, parce que... »
Oui.
Parce que du coup, de ce que j'ai compris, en fait, ils n'avaient pas le budget pour l'imiter, mais en gros, on m'a donné le grade d'adjudant, enfin, c'est...
Ouais, c'est un peu ça, oui, c'est que voilà, c'est pour justifier pourquoi il est promu, en fait, on dit que bah il n'y a pas forcément le budget pour embaucher quelqu'un d'autre, donc du coup on l'a promu histoire de ne pas avoir rajouté une nouvelle personne sur la fiche de salaire, quoi.
Ouais.
Bon, ce qui pour une unité aussi grande que Unit semble un peu étrange, mais bon voilà. Mais
je voulais revenir sur un truc, par exemple, sur l'évolution, sur le pourquoi en reprenant le principe du comment on a changé et pourquoi on change. Et moi, je veux revenir sur pourquoi c'est la fin du Unit, en fait, avec cet épisode-là. En tout cas, la fin d'une période avec Unit, en fait.
Mm-hmm. Oui, le docteur va repartir errer dans l'espace. Il a retrouvé les secrets du TARDIS et tout ça. Il sait comment le faire refonctionner suite à des choses qui sont passées dans la saison d'avant, en fait. Voilà. Et je n'en dis pas plus, je reste évasif exprès.
On est vachement frustré, je sais pas.
Bah, en fait, je pars du principe que si vous êtes dans cette partie du podcast, vous avez possiblement vu les épisodes. C'est pour ça qu'on l'a séparé en deux, c'est pour vous laisser un temps pour aller voir les différents épisodes dont on parle. Et donc du coup, j'ai pas de problème à spoiler, si tu veux, les épisodes dont on parle, mais un peu plus pour le reste.
Pour la suite, ouais.
Voilà. Donc le docteur repart errer dans l'espace, donc en effet, on part d'un show qui, pour 4 saisons à peu près, a fait du Unit, enfin des choses qui se passent pratiquement qu'à Unit. Enfin,
mm-hmm.
4, même 5 saisons. Tu vois ? Où on, ouais. était sur Terre, on avait un cadre assez précis. De temps en temps, on partait dans l'espace, mais c'était quand même assez rare. Hein.
Mm-hmm.
Et on arrive donc sur, justement, cette partie où il s'en va. Et donc oui, c'est pas la dernière fois qu'on voit Unit, mais c'est la dernière fois où ils sont là régulièrement, si tu veux. Unit va revenir dans une histoire de la saison d'après.
Mm-hmm.
Enfin, en tout cas, on va revoir le brigadier, en tout cas. Mais pour Unit en lui-même, ça va devenir un peu, petit à petit, le couteau suisse que tu connais maintenant dans la série moderne.
Ouais.
Et plus cette chose où le docteur appartient et où il est toujours là. Voilà, donc oui, c'est un petit peu ça. Et du coup, le fait de donner à Benton une promotion et tout ça, oui, c'est un peu... c'est un peu dire au revoir, tu vois.
C'est ça, ouais.
C'est
en ça que, par exemple, moi, j'ai senti un peu de tristesse, en fait, sur les dernières répliques, en fait, du brigadier qui fait... Oh, enfin, là, déjà, c'est une blague en soi, c'est-à-dire que normalement, le docteur doit assister à un dîner de la reine, et en fait, il fait « Oh, je dirais qu'il est en retard, c'est pas grave. »
C'est ça.
on saura jamais, en fait, s'il arrivera à temps pour le dîner de la reine. Probablement un truc qui doit lui passer au-dessus de la tête, comme il
ouais,
le dit.
Voilà. Ouais, bah c'est un peu tout le paradoxe du brigadier, qui est le personnage qui a vu le plus de docteurs ever et qui par contre n'est pas forcément pris au sens qu'on donne normalement à un compagnon.
Mmh.
C'est-à-dire qu'il part pas dans le TARDIS.
C'est vrai, voilà, c'est un peu... C'est, en fait, c'est ça qui m'a marqué sur la fin de l'épisode, c'est que c'est un peu mélancolique, en fait.
Si tu veux, en fait, le brigadier connaissait il a connu le docteur pendant sa seconde incarnation,
mm-hmm.
Où en fait, ils se sont vus deux fois. Justement, quand ils se sont connus, il n'était pas encore brigadier. Voilà, donc c'est suite, en fait, à ce qu'il a fait avec le docteur qu'il est devenu brigadier. Et justement, donc il y a eu, et c'est aussi ce qui a conduit à la création d'Unit, à quelque chose qui enquête sur le surnaturel et l'extraterrestre. C'est le fait que
tu m'avais dit au début, je crois en plus que c'était un peu l'ancêtre de Torchwood, ou en tout cas un simili Torchwood.
Techniquement,
si on comparait avec la série moderne.
Ouais, c'est une organisation humaine qui doit enquêter sur le paranormal, les extraterrestres. Mmh. Ose me dire que c'est pas Torchwood. Voilà, c'est... Mais du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu... C'est une conséquence des histoires du Docteur qui ont conduit à la création de Unit. Où là où Torchwood est un peu indépendant du Docteur, en fait. Enfin, ça vient aussi des actions du Docteur, mais c'est ça vient d'un seul épisode, là où c'était plusieurs histoires, justement, qui avaient créé tout ça. Et où le Docteur va prendre une part importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle encore de Unit de Doctor Who, et Torchwood, on l'a un peu oublié. Peut-être. Ce qui est...
dommageable.
Ouais, alors après, c'est sans doute parce que bah, le Docteur y a participé pendant toute sa troisième incarnation, tu vois. Mmh. Et oui, non, c'est un très grand... ça a laissé une très grande légende, Unit, qui existe encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la...
C'est pour ça qu'on l'a revu avec la série moderne.
C'est ça. Et on a la fille du brigadier. Enfin, tu vois, c'est... parce que c'est le brigadier, en fait, c'est Nicolas Courtenay, l'acteur qui joue le brigadier, a pratiquement joué avec tous les docteurs. L'acteur était là dans des épisodes du premier Docteur, donc il a joué avec William Hartnell. Donc il a fait à peu près tous les docteurs en vidéo, dans les séries classiques. En audio, il a joué avec le 8e, je crois qu'il a joué aussi avec David Tennant. Mm-hmm. En audio. Donc, après, je crois que David Tennant, je n'étais pas encore le docteur à ce moment-là, mais voilà, pour le plaisir, on peut le passer. donc oui, non, il a de son vivant, malheureusement, il est décédé depuis quelques années maintenant. Ouais. Il a été l'acteur qui avait participé à tous les docteurs. Mm-hmm. Ce qui lui donne une place particulière.
Donc si vous n'avez pas compris, chers auditeurs, que SN et moi, on apprécie vachement le brigadier, on ne sait plus quoi dire après.
C'est ça.
Non mais c'est vrai qu'il y a une... on apprécie beaucoup le personnage, en fait, le caractère. Quoi.
Je propose peut-être qu'on fasse un petit résumé un peu de tout ce qu'on a pu dire en termes de comparaison,
ouais,
et peut-être de conclure, malheureusement.
Oui, malheureusement. Alors, j'ai pas pris énormément de notes, mais c'est vrai que du coup, ce qu'on peut dire, c'est que sur l'épisode de Star Trek, l'idée, c'est de se dire, c'est l'idée de présenter donc la série, de dire, voilà, comment on a changé, comment sont les enjeux du show qu'on vous propose et de l'univers, et de vous intriguer aussi, même la fin de l'épisode finalement le montre aussi, c'est de vous dire voilà, il y a encore des choses étranges, il y a encore des choses à découvrir dans l'espace, et c'est pour ça qu'on revient, c'est pour ça qu'on vous raconte en fait ces histoires.
Ouais.
Doctor Who, ce que tu disais, c'est le pourquoi on a changé. Et le pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire évoluer peut-être le docteur, de sortir d'une dynamique qui avait fait son temps, qui avait marché, mais qui avait besoin en fait de changement. Pourquoi aussi on a besoin de dire au revoir en fait à certains personnages, donc du coup à toute une époque.
Oui.
Et pourquoi on a besoin aussi de vous redonner un peu de l'aventure, de l'espace, d'aller explorer encore un peu plus ce qu'il y a dans les recoins du temps, avec l'aide du TARDIS, avec l'aide de nouveaux compagnons. Et voilà, de vous proposer encore plus de divertissement, encore plus d'aventures. On n'en a pas parlé encore beaucoup, mais c'est vrai que l'épisode aussi de Doctor Who, avec ses thèmes, le côté robot, les hommages, comme tu disais, à King Kong et tout ça, c'était assez rigolo aussi.
Oui, ça parle le doigt de la robotique et King Kong. Voilà.
Aussi, voilà. Et j'ai compté, il y a 4 à 5 références à la prime, directive, je suis content. Non, c'est le docteur. Mais je pense qu'on peut laisser les auditeurs peut-être s'amuser à regarder et à se dire, en fait, il y a des choses aussi... Doctor Who fait aussi des références à certaines séries, à certaines choses de la pop culture qui sont
ah oui, oui, clairement. D'ailleurs, tu verras dans le montage final que la dernière phrase que j'ai placée dans le générique de fin, c'est Peter Capaldi qui dit Space the Final Frontier, parce que je savais que ça allait te faire beaucoup plaisir.
Moi, je l'utilise, hein. De toute façon.
Voilà, donc.
Faut savoir un truc, en VF, si vous matez l'épisode de. Si vous matez Star Trek, la nouvelle génération, avec, en VF avec la voix de Picard, vous avez l'impression. Enfin. La première fois, ça vous fait bizarre, c'est le discours, le speech et tout ça. Par la suite, moi, à chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression qu'il me fait de la pub pour vendre un vaisseau spatial. Ouais. Ça fait un peu pub de voiture. C'est très bizarre.
Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, donc oui, on est sur des shows qui ont des à ce moment-là des objectifs un peu similaires. C'est-à-dire ouais. donner un nouveau départ, une nouvelle impulsion.
Un nouvel élan, ouais, c'est ça.
Donc en ça, c'est un début. Mais en même temps, il faut aussi gérer peut-être l'héritage et ce qui s'est passé avant. Donc, c'est-à-dire comment on gère par rapport à ce qui s'est passé avant.
C'est ça. Alors parfois, on arrive à le faire relativement correctement, avec une certaine forme d'hommage avec Doctor Who. Et parfois, c'est un petit peu plus la galère, comme j'ai pu l'expliquer dans la production et tout ça, pour plein de contraintes différentes.
Ah, c'est un hommage peut-être un peu satirique dans le cas de Doctor Who, puisque certaines choses dans Unit sont un peu montrées comme inefficaces ou ce genre de choses.
Oui, il y a plein de points, oh mon dieu.
Voilà.
Il y a plein de moments où tu te dis, ouais, effectivement, ils sont pires que nous au niveau bureaucratie.
Mais après, oui, t'as... Dans l'idée, c'est ça en tout cas.
Ouais, j'aime beaucoup l'idée. En fait, on va rester là-dessus. Je pense que Star Trek, c'est vraiment voilà comment on a changé. Et Doctor Who, du coup, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on a changé. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de changer. Je trouve que ça résume très très bien en fait l'état d'esprit en fait sur les deux épisodes.
Ouais, je pense. Et donc du coup, on va se quitter là-dessus. Mais avant ça, on tient à mettre un petit rituel peut-être en place. comme on l'a dit, on aime bien certains rituels s'ils ne sont pas trop longs. Et donc en fait, on va mettre en place, donc choisir donc en direct donc le sujet de l'épisode. Il faut savoir que nous, en fait, on a 19 idées qu'on a déjà notées, donc qui viennent de nous deux et de diverses personnes qui nous connaissent autour.
Voilà.
Et donc, on vous demande aussi, si possible, de nous envoyer des idées qu'on rajoutera à la liste et qui pourront être choisies. Donc, l'idée, c'est de donner un thème sous le titre, en fait, l'épisode où nanani nanana. Voilà.
Patati patata.
C'est ça. Et donc, du coup, je vais te demander de me donner un chiffre entre 1 et... et 19, mon cher Thomas, et je te dirai à quoi ça correspond dans mon petit fichier Excel.
On va partir sur le chiffre 7.
Le chiffre 7...
Angel Bingo, qu'est-ce que t'as trouvé encore?
L'épisode où on explique le Technobabble.
Oh mon dieu.
Alors, c'est pas le plus simple.
Oh purée, oh la vache. Oh, oh. Mais comment on va se démerder avec cet épisode?
Oh, je sens que je vais me retrouver avec Star Trek The Motion Picture, moi.
Non. On avait dit, on touche pas au film.
Mais si, t'as le droit de toucher au film. Voyons. Donc voilà.
Je vais sortir de ces guépiers, je te jure. Ah, purée.
Non, mais c'est... À la limite, c'est bien, parce que c'est celui qui était le plus compliqué, donc peut-être une fois qu'on aura fait ça, il y aura plus de plaisir.
On est quand même champion à choisir en fait le chemin le plus compliqué, quoi, c'est clair.
Ah oui.
Si tu veux, non seulement on fait un podcast, mais en plus on choisit des thèmes, en plus on fait pas les épisodes dans l'ordre, et en plus on s'ajoute des difficultés. Non, mais à un moment donné, ça suffit, quoi.
C'est ça. Le voyage se passe mal, c'est ça.
C'est le prochain thème qu'on pioche, je te jure que...
C'est ça. Pour vous donner, en fait, c'est... Je l'ai mis dans le truc des réactions, c'est un titre d'épisode qu'on a trouvé pendant qu'on regardait. Voilà.
On va se dire au revoir.
Bah oui, du coup.
Oui.
On vous souhaite de découvrir les épisodes si vous l'avez pas fait.
C'est ça.
Voilà, n'hésitez pas. Je pense que les deux sont quand même plutôt bons. Je pense qu'il y a peut-être plus de difficultés, peut-être en effet faut s'accrocher un petit peu peut-être dans Star Trek.
C'est le baptême du feu, voilà.
C'est ça, mais je le dis très clairement, une fois qu'on avait passé et qu'on était arrivé un peu plus sur la station et tout ça, je trouvais ça quand même beaucoup plus sympa.
Ouais.
Et que ça passait plus, donc accrochez-vous peut-être un petit peu si vous avez vraiment du mal sur le tout début.
Et puis pour moi, le Doctor Who, de toute façon, si vous aimez le côté un peu bondissant, histoire de robots, moi j'ai l'impression de voir une histoire de Where the Tales, comme le magazine, en meilleur live, en fait. Et c'était très rigolo.
D'accord.
Et, moi j'aime bien ce genre de choses.
Très bien. Et bien en tout cas, nous on vous souhaite au revoir.
Oui.
Voilà. On va partir donc vers
l'ultime frontière ou la nouvelle frontière.
C'est ça. L'espace, frontière de l'infini. Et donc voilà, on va continuer à voyager dans l'espace et le temps, puisque c'est ce qu'on fait chaque jour, pour préparer le prochain podcast, et on vous souhaite de gros bisous, parce que voilà, on est comme ça.
Oui, bisous.
Voilà, à plus tout le monde.
Au revoir.